La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 28 octobre 2018. Salutations à tous mes auditeurs et évidemment ce soir, plusieurs d'entre vous jetent un coup d'œil au gala de la disque. Et comme il n'y a pas de catégorie d'art sonore à la disque, eh bien, vous êtes vraiment à la bonne émission ce soir avec la Croche-Oreille. Alors, je vous propose une rencontre avec Guillaume Côté, un musicien et un compositeur électroacoustique dont le travail est très singulier. Singulier au sens où Guillaume combine diverses approches, les fusionne même, alors des approches documentaires, des approches, une approche poétique et carrément expérimentale sur le plan sonore. Alors depuis quelques années maintenant, il crée, compose et performe sur la scène nationale. On a pu le voir et écouter son travail à Mutec, au Mois Multi, au Festival Acousma, au Marché international des arts numériques de Montréal et au Conservatoire de Montréal. Guillaume est titulaire d'une maîtrise en composition électroacoustique de l'Université de Montréal et a travaillé sous l'œil très bienveillant de Robert Normandeau, dont on a présenté le travail la saison dernière. À propos de Guillaume Côté, ben, je reprends ses propres termes quand il se dit influencé sur le plan sonore par tout ce qui l'entoure. Ses explorations, qu'elles soient poétiques, documentaires ou acousmatiques, cheminent à travers un mélange de matériaux concrets, synthétiques et vocaux. Et puis ça, ben, tout ça coloré, conditionné d'une certaine manière par des dynamiques territoriales, des préoccupations linguistiques et des environnements sociaux qui sont propres au Québec. Vous allez entendre ça à l'écoute de ses principaux projets. Je pense entre autres au projet Archipel, Empreinte, Carrefour. On réalise l'engagement social qu'il exprime à travers ses œuvres et ses parcours sonores. Guillaume Côté, ouvert sur le monde et éclectique, ses recherches reposent sur cette nécessité, et il va nous le rappeler d'ailleurs, nécessité de rencontre de l'autre au fin d'une aventure qui mixte à la fois le réel et la fiction, d'où l'intérêt de ce travail. Guillaume Côté affectionne les sonorités de synthèse et l'improvisation en temps réel dans le cadre de performances live. Il est cofondateur de la boîte de création audio numérique Tram. Il collabore avec plusieurs artistes, dont Samuel Boboni, Guillaume Campion et Lucie Leroux, Dave Gagnon et Alexis Langevin-Tétrault, avec lesquels il travaillait lors de son dernier passage à Québec. Alors, Guillaume, je l'ai rencontré à Québec. Il était en résidence de création à Recto Verso autour de son tout dernier projet intitulé Éphalèse. Alors, on écoute cette entrevue que j'ai réalisée avec Guillaume Côté. Guillaume Côté, bienvenue à l'émission.
Merci.
Guillaume, tu es en résidence à Recto Verso depuis quelques jours, on va dire ça comme ça, autour d'un projet qui s'intitule Falaise. Tu travailles avec des collaborateurs. J'aimerais vraiment que tu nous parles de ce projet qui est en marche.
C'est un projet qui a été initié par moi-même et Alexis Langevin-Tétrault, qui est un artiste sonore fait beaucoup de performances, dans le but de travailler sur la synthèse modulaire. Donc, on avait chacun un amour et des synthétiseurs modulaires pour les synthétiseurs modulaires. Et puis, on étudiait donc avec Robert Normando. Et puis, donc, on s'est connus là à l'Université de Montréal. Et puis, on a décidé de faire un projet d'improvisation sur des synthétiseurs modulaires. Et ensuite, une fois que ce désir a été comblé, on a invité un ami commun, donc Dave Gagnon, artiste visuel, pour un peu adapter cette improvisation modulaire-là à un spectacle audiovisuel. Et donc là, on a créé toute une banque visuelle et un système interactif. Donc exactement, l'audio va venir influencer le visuel et vice-versa. Et donc voilà.
C'est un spectacle qui va être présenté prochainement?
Bien, en fait, c'est un projet qui date depuis 2016, qui a eu sa genèse en 2016. Et on l'a présenté à plusieurs événements, en fait. Plusieurs moutures, mais là, c'est depuis cet été, depuis Miotech, on l'a fait à Miotech. Depuis cet été, donc l'été 2018, on a un spectacle qui est final. Et là, la résidence qu'on fait, finalement, Recto Verso, c'est pour rajouter du matériel. Donc là, on a un spectacle de 25 minutes qu'on commence à rouler beaucoup. Mais là, des fois, quand on va outre-mer, ils nous demandent d'avoir un spectacle un peu plus conséquent, d'avoir 40 minutes, 45 minutes. Donc, la résidence à Recto Verso, c'est pour faire le combler de 20 minutes qui manque. Donc, on est super content et choyé d'être là.
Comment tu le caractériserais sur le plan sonore, ce travail d'improvisation?
Oui. Bien, sur le plan sonore, c'est très puissant, en fait. On joue vraiment avec les dynamiques et avec la densité, en fait, parce qu'on a, oui, on a des synthétiseurs modulaires, mais qu'on rentre dans l'ordinateur puis qu'on empile les couches sonores. Donc, synthétiseur modulaire, c'est souvent monophonique, donc c'est relativement mince comme couche, mais là, avec l'ordinateur, avec des traitements faits sur mesure, on grossit les couches et on joue beaucoup, c'est ça, avec les écarts de dynamique, que ce soit sonore ou visuel.
Guillaume, pour les auditeurs qui sont moins familiers avec notre jargon technique, le synthétiseur modulaire, de quoi on parle exactement?
Oui, bien, on parle de différents petits modules. Donc, c'est souvent fait sous forme de petites valises. Et puis, qu'on met des modules qu'on choisit. Donc, c'est nous qui assemblons, d'une certaine façon, ce qu'on veut dans cette petite valise-là, et il y a des fils qu'on peut, donc chaque module a des entrées-sorties qu'on peut interconnecter ensemble, donc ça crée une espèce d'organisme vivant qui peut être génératif ou qu'on peut jouer.
Est-ce qu'elles sont ces sonorités préconstruites aussi à mesure que vous travaillez dans le processus de création, que vous modifiez un peu les tonalités originales?
Ben, en fait, oui, c'est ça la force des synthétiseurs modulaires, c'est qu'on peut... À force de travailler, à force que tu connaisses ton système, bien évidemment, les choses changent de façon organique, mais aussi un peu contrôlée. Mais on ne se cachera pas que le plaisir qu'on a à jouer avec des synthétiseurs modulaires, c'est le côté aléatoire. C'est le fait de ne pas avoir de contrôle. Parce que sinon, on aurait des synthétiseurs contrôlables à l'intérieur de l'ordinateur, et ça serait ça.
Écoute, Guillaume, d'entrée de jeu, on va faire entendre un extrait du projet Falaise. Guillaume, le projet Falaise, on vient d'entendre un extrait. C'est un projet qui s'insère dans un cycle de production sur peut-être une dizaine d'années, je vais dire ça comme ça. Bon, tu as une formation en composition électroacoustique à l'Université de Montréal. On peut lire ça sur ton curriculum, tout ça. Mais j'aimerais qu'on aborde d'autres projets que tu as réalisés parce que la caractéristique, c'est que tu as un travail qui est à la fois très enraciné sur les arts sonores au sens pur du terme, mais aussi tu as une approche qui est très intéressé par le documentaire sonore. Entre autres, tu as fait un projet qui s'intitule Archipel. Tu as réalisé ça avec Guillaume Campion et j'aimerais ça que tu me parles de ce documentaire que tu as nommé Acousmatique.
Oui, en fait, l'idée de ça nous est venue, en fait, collaborer. C'est, on a fait toutes nos études ensemble. On avait une esthétique similaire. Donc, faut dire que dans mes pièces précédentes, j'utilisais de la voix aussi, mais qui n'était pas documentaire. Donc, c'était plus de la poésie, là. C'était avec des acteurs. C'était pas nécessairement du documentaire. Mais mon collègue Guillaume Campion faisait déjà du documentaire. Mais donc, l'utilisation de la voix était un élément qui était commun à nous deux. Et donc, on a voulu collaborer. Et Archipel était notre premier projet. C'est un projet de long cours. Donc, il a été initié en 2015. C'est une commande de code d'accès et que c'était un documentaire acousmatique justement qui mélange à la fois du documentaire mais aussi des sons justement purement traités comme de l'art sonore. Donc essayer d'amalgamer ces deux-là. Souvent du documentaire sonore, on pense que c'est du podcast, la voix est vraiment mise de l'avant et nous on s'intéressait au caractère à la fois informatif, mais aussi musical de la voix en tant que telle. Donc, des fois, elle est traitée comme un matériau musical, mais aussi, des matériaux musicaux qui sont intégrés à la voix. Et donc, ça crée une belle synergie.
Guillaume, le projet Archipel, c'est aussi un projet qui a une dimension à la fois écologique, sociologique, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ben en fait, c'est venu d'un questionnement aussi, écologique, mais aussi comme social. Tu sais, dans le fond, on cherche toujours l'eau, en fait, quand on arrive dans une nouvelle ville, en général, à bord de l'eau. Et puis, à Montréal, ça faisait 8 ans que j'y habitais. Et puis, je trouvais le bord de l'eau qui n'était pas accessible. Et donc, c'est une question commune, justement, avec mon collègue Guillaume Campion. On s'est dit, ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'accès à l'eau. On est parti d'un constat qui était négatif. Puis on l'a amené dans un constat qui était finalement positif, parce que ça existe, il faut juste le chercher. Et puis c'est tout en branle avec le plan de l'eau de l'administration dans le temps Coderre, qu'on a d'ailleurs traité dans le projet Archipel. Mais oui, c'était un désir donc d'aborder l'écologie sonore, mais aussi d'un côté vraiment social. Puis c'est un peu rendu notre leitmotiv de traiter de tous nos projets, parle un peu de ces aspects-là, que ce soit avec les jeunes ou que ce soit avec le...
Il y a toujours une dimension qu'on pourrait qualifier de politique, d'engagement politique dans tes projets, puis évidemment, tu travailles beaucoup en complicité avec d'autres artistes, toutes disciplines confondues, je dirais, donc ça devient, comme tu dis, un leitmotiv.
Ben oui, puis surtout que les artistes, souvent en musique contemporaine, veulent pas tant se baigner en politique, ou du moins c'est un peu plus effacé. Puis donc ça aussi ça se rattache à la politique mais d'une façon qui est un peu détournée, mais c'est évidemment le documentaire, tu imposes un peu ton point de vue, veux pas, même si tu essaies d'être le plus objectif possible. Donc évidemment c'est là un peu que la politique peut rentrer en compte là, évidemment.
On va écouter ensemble un extrait du projet Archipel.
La région montréalaise est un archipel. Et on n'a à peu près aucun moyen de s'en apercevoir. Le seul moyen qu'on a, c'est d'embarquer dans une auto et à partir de la 20, c'est-à-dire dans l'axe du tunnel Hippolyte-La Fontaine, de venir prendre le pont Jacques-Cartier, ce qui nous fait longer le fleuve sur l'autoroute 132.
Construire des autoroutes sur le bord de l'eau, je ne vais pas aller traverser 4 voies d'autoroute pour aller marcher sur le bord de l'eau. Ça ne marchera pas.
souvent, dans ces cas-là, sur le bord des villes, on a des voies ferrées. On prend dans l'est de Montréal, il y a des voies ferrées parce que le port était là. Donc, l'accessibilité est toujours difficile parce qu'il y a des infrastructures qu'on doit franchir.
L'accès aux berges dans Montréal est très souvent problématique à cause de la teneur des terres. Côté sud de l'île, en aval des rapides de la Chine, il y a beaucoup des berges qui appartiennent au port de Montréal.
Notre port est très long, très étroit. Surtout à la hauteur de part et d'autre du Mont-Jean-Cartier. Ça peut pas être plus étroit que ça, là.
Les berges en milieu urbain au centre-ville, ben, tu peux pas te baigner. Parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on avait les anciens ports.
Avant, quand un navire s'arrimait dans un port, il restait en moyenne 7 à 10 jours à quai.
Au 18e, 19e, ben, on faisait nos transports, nos industries étaient devant les villes du bord de l'eau.
Alors, ça te prend un long linéaire de quai pour tous ces bateaux arrêtés 7 à 10 jours, puis ça te prend des hangars tout le long. Ça, c'est l'ancienne technologie portuaire, c'est celle qu'on a à Montréal. Aujourd'hui, un bateau rentre à 10 heures au port de Montréal, il décharge 800 ou 1000 containers, il en recharge 700, 3 heures après, il est parti. Donc, comme ton bateau reste très peu de temps à quai, t'as pas besoin d'un très long linéaire de quai. T'as besoin de profondeur. Il y a une évolution nécessaire du port de Montréal, on le voit d'ailleurs dans l'Est. Ils ont besoin de nouveaux terrains, ils sont trop à l'étroit.
Aujourd'hui, ces lieux-là sont devenus obsolètes. Et on a un désir, effectivement, de les transformer. Mais souvent, ces lieux-là aussi sont contaminés. Alors, il y a toute une portée environnementale qui est lourde.
Lorsque je suis revenu à Montréal pour le métier de pilote. Autrefois, je naviguais au long cours, puis j'étais très peu à Montréal. Mes navigations long cours m'avaient permis de découvrir les plus belles villes maritimes du monde, puis les activités qu'il y avait en berge, sur l'eau, ou au cœur des havres de ces villes-là. Et puis, en revenant à Montréal, j'ai un peu instinctivement cherché ces mêmes activités dans ma ville maritime et je ne les ai jamais trouvées.
À l'international, le cas qui fait baver tout le monde dans mon domaine de redonner l'accès au fleuve, c'est le cas de Barcelone. Quand pour les Olympiques en 1994, ils ont déménagé le port, ils ont défait les quais, puis ils ont fait des plages. C'est des kilomètres de plage à faire, même mieux de Barcelone.
Le nouveau port de Barcelone a une capacité trois fois supérieure à celui d'auparavant, et pourtant il est parfaitement carré et il occupe linéairement un cinquième à peu près de ce qu'était le port avant. Si bien que les quatre autres cinquièmes ont permis d'ouvrir le Barcelone sur la Méditerranée.
Ben, à Toronto, on a quand même on a commencé en 2002 avec au centre-ville, au pied de la tour du CN, qui est HTO Park.
Vancouver, avec les redéveloppements du centre-ville. 13 kilomètres.
À Paris, il y a des quais réservés à des espaces commerciaux. On demande aux gens de développer des bars, des restaurants, des discothèques, des centres de danse, des centres culturels flottants. Les gens arrivent avec des projets.
C'est génial.
C'est ce que ça parlait à Montréal.
On a fait des GTO, on a fait le deuxième, Sugar Beach. Succès. Bon. Puis après, Sugar Beach. On a vu ce potentiel-là à Montréal, à Nantes Vieux-Port.
Ça, c'est des villes où, mon Dieu, ils vivent au fil de l'eau. À chaque année, on voit des villes.
Alors, on écoute un extrait du projet Archipel mené par Guillaume Côté. Vous pouvez trouver l'intégrale de ce beau projet sur le site de Guillaume Côté en faisant un peu de recherche sur le web. Alors, on s'arrête quelques instants pour l'indicatif CKRL et puis je vous reviens avec cette rencontre que j'ai réalisée avec Guillaume Côté.
CKRL, communication, culture. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.
Alors voilà, j'en profite pour vous rappeler que vous pourrez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y trouverez le descriptif de l'émission, nos partenaires CKRL et Avatar, ainsi que toutes les émissions en balado-diffusion pour écoute immédiate ou encore en différé au moment et là où ça vous tente d'écouter La Croche-Oreille. Alors, on poursuit l'échange entamé en première partie d'émission avec Guillaume Côté. côté un artiste qui vit, travaille à Montréal et dont les explorations sonores sont construites sur l'hybridation d'univers documentaires, poétiques et carrément expérimentaux. Ces projets sonores fusionnent de nombreuses dimensions sociétales. On l'a vu avec le projet Archipel qui traite lui de l'accès, de la problématique de l'accès au fleuve. Et on va entendre ensuite son projet intitulé Empreinte, réalisé en 2017 en collaboration avec le Musée de la civilisation à Québec. Un projet qui fait appel au témoignage de 12 artistes et artisans des Premières Nations. Cela afin de proposer un regard sur les cultures autochtones et leur mode de vie et leur représentation. Le projet Archipel, quant à lui, dont on a entendu un extrait, fusionne musique acousmatique et documentaire sonore au fin d'une réflexion, comme je le disais, sur l'accès à l'eau, proprement dite, et au fleuve Saint-Laurent. Alors, poursuivons ensemble cet entretien avec Guillaume Côté, que j'ai rencontré en septembre à Québec, alors qu'il menait une résidence de post-production autour du projet Falaise, réalisé, je le rappelle, en compagnie de ses complices Dave Gagnon et Alexis Langevin-Tétrault. Alors, on écoute la suite de cet entretien que j'ai fait avec Guillaume. Guillaume, on peut lire sur ton site une phrase assez intéressante parce que tu considères que la production sonore est comme un autre des leitmotivs, je dirais, de la production. C'est cette idée de travailler pour favoriser la rencontre avec l'autre. Et c'est en fait un peu le moteur de ta création. Et j'aimerais approfondir ça un peu avec toi. Comment tu vois ça?
Bien, tout à fait. Bien, en fait, à la base, ça, c'est sur plusieurs niveaux. T'as la rencontre avec l'autre au niveau de la collaboration, en premier lieu. La collaboration en musique contemporaine est relativement rare entre deux compositeurs. Oui, il y a des groupes, il y a des collectifs, mais en composition, disons, électronique ou acousmatique, c'est beaucoup plus rare que deux compositeurs s'agencent. C'est peut-être la façon de travailler, c'est peut-être les idées qui se confrontent, souvent que ça fonctionne pas. Mais donc, la rencontre de l'autre vient de ça, de la collaboration. Il y a aussi des sujets qui sont choisis. Et aussi, de la médiation culturelle, en fait. Chose que je fais souvent. Et surtout avec les jeunes, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les jeunes, adolescents, secondaires. Cette rencontre-là, a priori, ils n'ont aucun a priori de la question de l'art sonore. Ils connaissent pas ça. Donc, tu es un peu leur premier contact. Et cette rencontre-là te fait beaucoup réfléchir sur ta propre pratique, mais aussi sur comment tu pourrais la transmettre d'une façon qui est beaucoup plus terre-à-terre que l'enseignement à l'université. Fait que c'est vraiment ça, la rencontre de l'autre, je la trouve intéressante à travers aussi, c'est ça, la médiation culturelle et pouvoir démocratiser ça un peu, parce que c'est la rencontre vers l'autre, c'est aussi vers le public. Et souvent, il y en a peu de public. C'est un constat qui est quand même négatif, mais je pense qu'il faut travailler, c'est motivateur aussi, il faut travailler dans cette optique-là de la médiation sert à rencontrer l'autre pour que l'autre puisse avoir connaissance de ton travail. Donc.
Guillaume, dis-moi, le projet Carrefour, là, qui traite à la fois de la langue, de l'identité, est un peu dans cette mouvance de la rencontre avec l'autre?
Oui, ce projet est initié avec le Centre Turbine, qui est un centre de médiation culturelle à Montréal. Et ça avait comme but, ce projet-là. On a été pendant 8 semaines dans 2 écoles secondaires. Pour traiter justement cette question-là de l'identité de la langue, mais c'était dans les écoles multiculturelles. Donc, on s'était un peu donné ça comme défi. Ben, allons-y pas justement dans une école qui est très francophone. Fait qu'on était à Jean 23 d'Orval et Calixa-Lavallée à Montréal-Nord. Donc, on a fait des projets de création. Donc, c'était à la fois, oui, on crée avec les jeunes un projet d'art sonore, mais on leur donnait un peu conscience de la beauté de la langue française. Puis c'était rien de politique, c'était juste un projet, c'était un défi qu'on s'était donné finalement, de rencontrer l'autre, mais aussi de faire finalement valoir, de quitter finalement, puis peut-être leur donner le goût à travers l'art de s'approprier le français.
On va écouter un extrait de ces conversations, de ces monologues et sonorités ambiantes du projet Carrefour.
Depuis que je suis au Québec, moi, je m'appelle Talia Almona. Mais avant de vivre au Québec, je m'appelais Talia Wagi William Wassef Almona. Parce que dans mon pays natal, quand je suis arrivée au monde, légalement parlant, l'enfant portait le nom de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Et quand on est arrivé ici, dans les années 1990, ben légalement, tu avais ton prénom puis un nom de famille. Aussi simple que ça. Donc, le Almona, finalement, est typiquement québécois. Pour mes parents, c'était clair pour eux qu'on allait vivre dans un quartier francophone, qu'on n'allait pas dans un quartier dit de communauté X. La preuve, moi, j'ai grandi à Laval, à Vimont, dans les années 90. Aujourd'hui, à Laval, dans le nord de Laval, l'immigration, c'est à peu près 50-50. Vimont, c'est pas mal au nord. Puis, dans le sud de Laval, on est comme à peu près 80%, 20%. Ça, c'est aujourd'hui. Mais dans mon temps, on était peut-être 4 à mon école primaire. On est dans un autre contexte. On est dans le contexte des années 90 au Québec, là.
Si on parle des classes d'accueil, là, on a des élèves qui viennent de plusieurs horizons différents. On a des élèves d'Amérique du Sud, on a des élèves d'Haïti, une communauté haïtienne importante. On a des gens aussi de la communauté arabe et maghrébin. Puis, évidemment, on a quelques élèves aussi d'Europe de l'Est, communauté chinoise, asiatique, un petit peu Inde, des choses-là, mais c'est pas notre communauté les plus importantes. Je dirais que quand on couvre Amérique du Sud, donc espagnol, haïtien, quelques pays d'Afrique également que j'ai pas nommés, donc ça fait le tour à peu près de notre clientèle.
Les enseignants d'accueil, donc de francisation, ne suivent pas nécessairement le programme du régulier, c'est-à-dire ce qu'on enseigne en secondaire 1, 2, 3. Oui, il y a les bases, mais à travers tout ça, il y a toute la notion aussi d'apprendre la culture québécoise. Il y a des sorties qui sont obligatoires dans le cursus, justement, pour faire connaître la culture québécoise. Les enseignants de français donnent aussi le cours d'univers social. Donc, souvent, c'est par le cours d'univers social qu'ils vont transmettre la matière, là, parce qu'ils arrivent ici à 14, 15, 16 ans. S'ils s'en allaient directement en classe régulière, bien, toute l'histoire là, du Canada, du Québec et tout ça, ils ne l'auraient pas.
Ben moi, c'est sûr que je trouve ça important parce qu'on n'est pas juste le seul endroit qu'on parle français. Il y a d'autres pays qui parlent le français aussi. Puis nous, c'est comme un peu notre culture à nous. Si le français n'existe plus, notre culture, comme elle disparaît.
Le gouvernement fait un assez bon travail pour faire comprendre aux immigrants que la langue française est importante. Puis aussi, chaque culture apprend la langue et la culture de façon différente. C'est ça qui fait la beauté du Québec. Tout le monde est différent.
La loi 101, en tant que loi, bien sûr, ça oblige tout le monde à parler en français, puis jusqu'au milieu comme français. Mais ce que je vois, parce qu'il y a la norme légale et la norme sociale. Selon la norme sociale, tout le monde a le droit de parler sa langue. Bien sûr, pas dans le cours de français, parce que c'est du français et on doit parler en français. Mais hors du cours, on peut parler de notre langue qu'on veut.
Guillaume, ça fait tout de même là plus d'une dizaine d'années que tu œuvres dans le domaine de la musique électroacoustique, des arts sonores. Qu'est-ce qui t'amène aux arts sonores? Quelles sont tes références, tes sources d'inspiration?
Mes sources d'inspiration, peut-être ma première source d'inspiration musicale, qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire de la musique, ça peut être surprenant, mais c'est Blue Train de John Coltrane. J'étais disquaire justement à Québec, à Archambault. Aucune connaissance de ce genre musical-là, puis on pouvait mettre les CD qu'on voulait dans le temps. J'ai juste mis le CD de Blue Train, puis c'est là que j'ai eu conscience que la musique pouvait parler. Donc, je devais avoir peut-être 16 ans, à peu près, 17 ans, que j'avais pas eu cette formation-là. J'ai pas de formation musicale à part ma maîtrise, donc bac maîtrise, mais je n'avais pas. Au secondaire, j'ai joué de la clarinette. Mais bref, donc le pouvoir évocateur du son est venu par le jazz.
Bon, c'est encore une grande influence. Mais ensuite, plusieurs courants, Sono, un groupe drone qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Donc ça, c'était plutôt pour la puissance du son. Donc, Sono joue avec les volumes très élevés et les basses fréquences. J'ai jamais fait ça non plus, mais ça m'a donc nourri dans peut-être plus dans la diffusion sonore. Ensuite, des artistes, Vladislav Delay, qui est un artiste finlandais, qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. Ça, c'est plus au niveau esthétique. Et puis finalement, évidemment, au niveau art sonore, écologie sonore, il y a Chris Watson, le grand anglais preneur de son pour la BBC notamment. Ça, c'est beaucoup plus au niveau peut-être technique, mais aussi le pouvoir évocateur de l'écologie sonore, le montage sans traitement, qui peut être intéressant. Donc souvent, en art sonore, on a tendance à beaucoup traiter les choses, mais lui, il m'a un peu appris à se calmer puis à juste essayer de monter le plus possible d'une façon... qui s'approche du réel.
Guillaume, tu as travaillé, et je dirais que c'est les premiers surgeons de ton travail professionnel. On le retrouve sur ton site Internet, un projet qui s'intitule « Cycle du territoire ». Tout simplement, j'aimerais que tu nous en parles.
Oui, ben la genèse de ce projet-là, donc c'est mon projet de maîtrise finalement, est né en fait d'un désir de s'éloigner du conceptuel, donc de... Justement, c'était s'ancrer dans le territoire, dans l'écologie sonore et aussi dans la poésie m'aidait à m'ancrer dans le réel, en fait. C'est un moment de ma vie que j'avais besoin de ça. Donc, au début de mes études, c'était beaucoup, pas de fabulation, mais beaucoup de conceptualisation, puis des études, puis bon. J'ai décidé de m'ancrer dans le réel, puis c'est en m'ancrant dans le territoire et dans la notion de la langue et la notion du Nord, en fait, de la nordicité, donc qui a guidé ce projet-là. Donc, c'est un cycle de 3 pièces, avec beaucoup, justement, de poésie, donc la poésie de Mary Huguet et de Pierre Perrault, donc qui traitait notamment de la nordicité et du territoire. Donc, tout ça a fait un cycle d'une trentaine de minutes. Et puis oui, en effet, c'est les premiers projets que j'ai mis officiellement en ligne.
Premier projet qui me semble en tout cas assez réussi, et puis on va en donner un avant-goût à nos auditeurs, on va en faire jouer un extrait.
Tout. toute la nuit. Nous avons guetté le paysage en silence. Il n'est de marche généreuse que ce retour à toute chose nommée. Les racines engendrent l'eau et la plaine. Tout se déverse dans le blanc, où la nuit se fend et devient une chute. Détachement de toute saison, ce très long regret de la nuit. Cette distance qui ne sera pas parcourue. Tout l'éparpillement continu du temps dans l'angoisse. L'hiver se tient immobile sur la ligne droite du silence. Sa détresse mystérieuse aspire ma détresse.
Guillaume, pour compléter notre rencontre qui a été fort stimulante, dis-moi tes projets dans les prochaines semaines, prochains mois ou en cours d'année. Il y a Falaise et puis est-ce que d'autres trucs qui s'en viennent?
Oui, ben il y a Falaise, donc on commence à faire des petites tournées européennes ou internationales, donc il y a des beaux projets qui s'en viennent. On va notamment à Nantes à la fin du mois et Portugal, Espagne en mai, donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. Sinon, avec mon collègue de Projet Archipel, on a une compagnie qui s'appelle Tramaudio. Donc, beaucoup de contrats de ce côté-là, notamment avec les rendez-vous internationaux du documentaire. Ils coproduisent un documentaire qu'on va faire dans une école, dans l'école Lucien Pagé, cet hiver. On continue aussi Projet Archipel à Vaudreuil-Dorion. Donc, on va faire des nouvelles capsules avec les citoyens. Et ça, c'est au printemps.
Guillaume Côté, merci beaucoup pour cette belle rencontre.
Merci à vous.
Alors voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir sur des sonorités de Guillaume Côté, des pièces tirées, les dernières pièces tirées de cette série Cycle du territoire. Alors, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine sur les ondes de CKRL 89,1. Je vous invite, en attendant, à jeter un coup d'œil sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous allez retrouver le balado ainsi que les références aux pièces qu'on a fait jouer ce soir. Et comme mot de la fin, eh ben, je vous dis, prenez le temps d'écouter les sonorités autour de vous.
Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.